Chapitre 9. Jean-Baptiste Drouet, la tour de péage du pont de Varennes. Ce mot du roi, nous allons prendre ici quelques renseignements, était expliqué par la présence de deux ou trois maisons, sentinelles avancées de la ville haute et qui s'étendaient sur la droite de la route. L'une de ces maisons, la plus proche, s'était même ouverte au bruit des deux voitures et on avait aperçu de la lumière à travers l'entrebâillement de la porte. La reine descendit, prit le bras de monsieur de Malden et se dirigea vers la maison, mais à leur approche, la porte se referma. Cependant, cette porte n'avait point été poussée si vite que monsieur de Malden, qui s'était aperçu des intentions peu hospitalières du maître du logis, n'eut eu le temps de s'élancer et n'eût arrêté la porte avant que le pen fût entré dans la gâche. Sous la secousse de monsieur de Malden, et quoiqu'on tentât de la repousser, la porte s'ouvrit. Derrière la porte, et faisant effort pour la fermer, était un homme d'une cinquantaine d'années, jambes nues, vêtu d'une robe de chambre et les pieds dans des pantoufles. Ce ne fut pas sans un certain étonnement, on le comprend bien, que l'homme à la robe de chambre se sentit repoussé dans sa maison et vit la porte s'ouvrir sous la pression d'un inconnu derrière lequel se tenait une femme. L'homme à la robe de chambre jeta un regard rapide sur la reine, dont le visage était éclairé par la lumière qu'il tenait à la main, et tressaillit. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda-t-il à monsieur de Malden. « Monsieur, répondit le garde du corps, nous ne connaissons pas Varennes, et nous vous prions d'être assez bon pour nous indiquer le chemin de Stenay. »« Eh, si je le fais, dit l'inconnu, si l'on sait que je vous ai donné ce renseignement, et si, pour vous l'avoir donné, je suis perdu. » »« Ah, monsieur, dit le garde du corps, dussiez-vous courir quelque risque à nous rendre ce service, vous êtes trop courtois pour ne pas obliger une femme qui se trouve dans une dangereuse position. » « Monsieur, répondit l'homme à la robe de chambre, la personne qui est derrière vous n'est pas une femme. » Il s'approcha de l'oreille de monsieur de Malden et lui dit tout bas, « C'est la reine. Monsieur, je l'ai reconnue. » La reine, qui avait entendu ou qui avait deviné ce que l'on venait de dire, tira monsieur de Malden en arrière. « Avant d'aller plus loin, dit-elle, prévenez le roi que je suis reconnue. » Monsieur de Malden, en une seconde, eut accompli cette commission. « Eh bien, dit le roi, priez cet homme de venir me parler. » Monsieur de Malden revint, puis, pensant qu'il était inutile de dissimuler, « Le roi désire vous parler, monsieur, dit-il. » L'homme poussa un soupir, quitta ses pantoufles, et, pieds nus, pour faire moins de bruit, s'avança vers la portière. « Votre nom, monsieur ? » lui demanda le roi tout d'abord. « Monsieur de Préfontaine, sire, répondit-il en hésitant, qu'êtes-vous ? Major de cavalerie et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Oh, votre double qualité de major et de chevalier de Saint-Louis, monsieur, vous m'avez fait deux fois serment de fidélité. Il est donc de votre devoir de m'aider dans l'embarras où je me trouve. » Certainement, répondit le major en balbutiant, mais je supplie votre majesté de se hâter, on pourrait me voir. Eh, monsieur, dit monsieur de Malden, quand on vous verrait, tant mieux, vous n'aurez jamais fait plus belle occasion de faire votre devoir. Le major, dont cela ne paraissait point être l'avis, poussa une espèce de gémissement. La reine haussait les épaules de pitié et frappait du pied avec impatience. Le roi lui fit signe, puis s'adressant au major, « Monsieur, reprit-il, auriez-vous entendu dire par hasard que des hommes attendissent une voiture qui doit passer, ou avez-vous vu des hussards qui stationnent dans la ville depuis hier ?»« Oui, sire, chevaux et hussards sont de l'autre côté de la ville, les chevaux à l'hôtel du grand monarque, les hussards probablement dans la caserne. » « Merci, monsieur. Maintenant, rentrez chez vous, personne ne vous a vu, et il ne vous arrivera rien. Sire, le roi, sans en écouter davantage, tendit la main à la reine pour qu'elle remontât en voiture et s'adressant au garde du corps qui attendait ses ordres. « Messieurs, dit-il, sur votre siège et au grand monarque. » Les deux officiers reprirent leur place et crièrent au postillon « Au grand monarque !» Mais au même instant, une espèce d'ombre à cheval, un cavalier fantastique, s'élança du bois et, coupant la route en diagonale, « Postillon » cria-t-il, « pas un pas de plus !»« Pourquoi cela ?» demandèrent les postillons, étonnés. parce que vous conduisez le roi qui s'enfuit, mais au nom de la nation, je vous ordonne de ne pas bouger. » Les postillons, qui avaient déjà fait un mouvement pour enlever la voiture, s'arrêtèrent en murmurant « Le roi !» Louis XVI vit que l'instant était suprême. « Qui êtes-vous donc, monsieur ? » s'écria-t-il, « pour donner des ordres ici ?»«
Un simple citoyen. Seulement, je représente la loi, et je parle au nom de la nation. Postillon, ne bougez pas, je vous l'ordonne une seconde fois. »
« Vous me connaissez bien, je suis Jean-Baptiste Drouet, fils du maître de poste de Sainte-Ménehoulde. »«
Oh, le malheureux !» crièrent les deux gardes en se précipitant de leur siège et en mettant le couteau de chasse à la main. « C'est lui !»
Mais avant qu'ils eussent mis pied à terre, Drouet s'était élancé dans les rues de la ville basse.
« Ah, Charny, Charny !» murmura la reine, « qu'est-il devenu ?»
Et elle se laissa aller au fond de la voiture, presque indifférente à ce qui allait se passer. Qu'était-il arrivé de Charny, et comment avait-il laissé passer Drouet? La fatalité, toujours. Le cheval de M. d'Andoin était bon coureur, mais Drouet avait près de 20 minutes sur le compte. Il fallait regagner ces 20 minutes. Charny enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval, le cheval bondit, souffla la fumée par ses naseaux et partit à fond de train. Drouet, de son côté, sans savoir même s'il était ou non poursuivi, allait ventre à terre. Seulement Drouet avait un bidet de poste et Charny avait un cheval de sang. Il en résulta qu'au bout d'une lieue, Charny avait gagné le tiers du chemin sur Drouet. Alors Drouet s'aperçut qu'il était poursuivi et redoubla d'efforts pour échapper à celui qui menaçait de l'atteindre. À la fin de la seconde lieue, Charny avait continué de gagner dans la même proportion et Drouet se retournait plus souvent et avec une inquiétude croissante. Drouet était parti si rapidement qu'il était parti sans armes. Or, le jeune patriote ne craignait pas la mort, il l'a bien prouvé depuis, mais il craignait d'être arrêté dans sa course, il craignait de laisser fuir le roi, il craignait que cette fatale occasion qui lui était offerte d'illustrer à tout jamais son nom ne lui échappât. Il avait encore 2 lieues à faire avant d'arriver à Clermont, mais il était évident qu'il serait rejoint à la fin de la première lieue, ou plutôt de la troisième depuis son départ de Sainte-Ménehoulde. Et cependant, pour stimuler son ardeur, il sentait devant lui la voiture du roi. Nous disons, il sentait, car il était, on le sait, quelque chose comme 9h30 du soir, et quoi qu'on fût dans les plus longs jours de l'année, la nuit commençait à tomber. Drouet redoubla ses coups d'éperon et ses coups de fouet. Il n'était plus qu'à 3/4 de lieue de Clermont, mais Charny n'était plus qu'à 200 pas de lui. Sans aucun doute, Drouet savait qu'il n'y avait pas de poste à Varennes. Sans aucun doute, le roi allait continuer sa route par Verdun. Drouet commençait à désespérer. Avant de rejoindre le roi, il serait rejoint lui-même. À 1/2 lieue de Clermont, il entendait le galop du cheval de Charny pressant le sien et les hennissements du cheval de Charny répondant aux hennissements de son cheval. Il fallait renoncer à la poursuite ou se décider à faire face à son adversaire. Et pour faire face à son adversaire, nous l'avons dit, Drouet n'avait point d'armes. Tout à coup, comme Charny n'était plus qu'à 50 pas de lui, des postillons revenant sur des chevaux dételés croisèrent Drouet. Drouet les reconnut pour ceux qui conduisaient les voitures du roi. « Ah, dit-il, c'est vous, route de Verdun, n'est-ce pas ?»«
Quoi, route de Verdun ?» demandent les postillons.
« Je dis, répète Drouet, que les voitures que vous avez conduites ont pris la route de Verdun. » Et il les dépasse, pressant son cheval par un dernier effort.
« Non !» lui crient les postillons, « la route de Varennes !»
Drouet pousse un rugissement de joie. Il est sauvé, et le roi est perdu. Si le roi eût suivi la route de Verdun, il était obligé, lui, le chemin tirant en ligne droite de Sainte-Ménehoulde à Verdun, il était obligé, disons-nous, de suivre la route droite. Mais le roi a pris la route de Varennes à Clermont. La route de Varennes se jette à gauche à angle presque aigu. Drouet s'élance dans la forêt d'Argonne, dont il connaît tous les détours. En coupant à travers le bois, il gagnera 1/4 d'heure sur le roi. En outre, l'obscurité de la forêt le protégera. Charny, qui connaît la topographie générale du pays presque aussi bien que Drouet, comprend que Drouet lui échappe et jette à son tour un cri de colère.
Presque en même temps que Drouet, il pousse son cheval dans l'étroite plaine qui sépare la route de la forêt en criant « Arrête, arrête !» Mais Drouet se garde bien de répondre. Il se penche sur le cou de son cheval, l'excitant des éperons, de la cravache, de la voix. Qu'il atteigne le bois, c'est tout ce qu'il lui faut, il est sauvé. Il atteindra le bois, seulement pour l'atteindre, il passera à 10 pas de Charny. Charny prend un des pistolets, vise Drouet. « Arrête, lui dit-il, ou tu es mort !» Drouet se penche plus bas sur le cou de son cheval et le presse plus fort. Charny lâche la détente, mais les étincelles de la pierre, s'abattant sur la batterie, brillent seules dans l'obscurité. Charny, furieux, lance son pistolet sur Drouet, prend le second, se jette dans le bois à la suite du fugitif, l'entrevoit à travers les arbres, fait feu de nouveau, mais, comme la première fois, son pistolet rate. C'est alors qu'il se souvient que, lorsqu'il s'éloignait au galop, M. Dandouin lui a crié quelque chose qu'il n'a pas compris. « Ah, dit-il, je me suis trompé de cheval, et sans doute, il m'a crié que les pistolets du cheval que je prenais n'étaient pas chargés. Ah, n'empêche, je rejoindrai ce misérable, et s'il le faut, je l'étoufferai de mes mains. » Et il se remet à la poursuite de l'ombre qu'il entrevoit encore au milieu de l'obscurité. Mais à peine a-t-il fait 100 pas dans cette forêt qu'il ne connaît pas que son cheval s'abat dans un fossé. Charny roule par-dessus sa tête, se relève, saute de nouveau en selle, mais Drouet a disparu. Voilà comment Drouet a échappé à Charny. Voilà comment il vient de passer sur la grande route pareil à un fantôme menaçant et commandant aux postillons qui conduisent le roi de ne pas faire un pas de plus. Les postillons se sont arrêtés car Drouet les a adjurés au nom de la nation qui commence à être plus puissant que le nom du roi. À peine Drouet s'est-il enfoncé dans la ville basse qu'en échange du galop de son cheval qui s'éloigne, on entend le galop d'un cheval qui s'approche. Par la même rue que Drouet a prise, Isidore reparaît. Ces renseignements sont les mêmes que ceux qui ont été donnés par Monsieur de Préfontaine. Les chevaux de Monsieur de Choiseul et Messieurs de Bouillet et de Régecourt sont à l'autre extrémité de la ville, à l'hôtel du Grand Monarque. Le troisième officier, Monsieur de Rorik, est à la caserne avec les hussards. Un garçon de café qui fermait son établissement lui a donné ses détails, comme précis. Mais, au lieu de la joie qu'il croit apporter aux illustres voyageurs, il les trouve plongés dans la stupeur la plus profonde. Monsieur de Préfontaine se lamente. Les deux gardes du corps menacent quelque chose d'invisible et d'inconnu. Isidore s'arrêta au milieu de son récit. « Qu'est-il donc arrivé, messieurs ? N'avez-vous pas vu dans cette rue un homme qui passait au galop ?»« Oui, sire, dit Isidore. Eh bien, cet homme, c'est Drouet, dit le roi. » « Drouet ! » s'écria Isidore avec un profond déchirement de cœur. « Alors, mon frère est mort !» La reine jette un cri et cache sa tête entre ses mains. Il y eut un instant d'inexprimable accablement parmi tous ces malheureux menacés d'un danger inconnu, mais terrible, et arrêtés sur la grande route. Isidore en sortit le premier. « Sire, dit-il, mort ou vivant, ne pensons plus à mon frère, pensons à votre majesté, il n'y a pas un instant à perdre. Les postillons connaissent l'hôtel du grand monarque, au galop, à l'hôtel du grand monarque !» Mais les postillons ne bougent pas. « N'avez-vous pas entendu ?» leur demanda Isidore. « Je suis fait. »« Eh bien, pourquoi ne partons-nous pas ?»« Parce que Monsieur Drouet l'a défendu. » Comment Monsieur Drouet l'a défendu, et quand le roi commande et que Monsieur Drouet défend, vous obéissez à Monsieur Drouet? Nous obéissons à la nation. Allons, messieurs, dit Isidore à ses deux compagnons, il y a des moments où la vie d'un homme ne compte pour rien. Chargez-vous chacun d'un de ces hommes, je me charge moi de celui-ci, nous conduirons lui-même. Et il prend au collet le postillon le plus proche de lui et lui appuie sur la poitrine la pointe de son couteau de chasse. La reine voit briller les trois lames et jette un cri. « Messieurs, dit-elle, messieurs, par grâce !» Et puis au postillon, « Mes amis, dit-elle, 50 louis à partager, tout de suite, entre vous trois, et une pension de 500 francs chacun, si vous sauvez le roi. » Soit qu'ils eussent été effrayés par la démonstration des trois jeunes gens, soit qu'ils fussent séduits par l'offre, les postillons enlèvent leurs chevaux et reprennent leur chemin. Monsieur de Préfontaine rentre chez lui tremblant et se barricade. Isidore galope devant la voiture. Il s'agit de traverser la ville et de passer le pont. La ville traversée et le pont passé, en 5 minutes, on sera à l'hôtel du grand monarque. La voiture descend, à fond de train, la côte qui conduit à la ville basse. Mais en arrivant à la voûte qui donne sur le pont et qui passe sous la tour, on aperçoit qu'un des battants de la porte est fermé. On ouvre ce battant, 2 ou 3 charrettes barrent le pont. « À moi, messieurs !» dit Isidore en sautant à bas de son cheval et en rangeant les charrettes. En ce moment, on entend les premiers battements du tambour et les premières volées du tocsin. Drouet a fait son œuvre. « Ah, misérable !» s'écrie Isidore en grinçant des dents. « Si je te retrouve !» Et par un effort inouï, il pousse de côté une des 2 charrettes, tandis que Monsieur de Malden et Monsieur de Valory poussent l'autre. Une 3e reste en travers. « À nous la dernière !» dit Isidore. Et en même temps, la voiture s'engage sous la voûte. Et tout à coup, entre les ridelles de la 3e charrette, on voit passer les canons de 4 ou 5 fusils. « Pas un pas où vous êtes morts, messieurs !» dit une voix. « Monsieur, monsieur !» dit le roi en mettant la tête à la portière. « N'essayez point de forcer le passage, je vous l'ordonne. » Les 2 officiers et Isidore font un pas en arrière. « Que nous veut-on ? » demande le roi. En même temps, on entend un cri d'effroi poussé dans la voiture. Outre les hommes qui interceptent le passage du pont, 2 ou 3 autres se sont glissés derrière la voiture et les canons de plusieurs fusils se montrent aux portières. Un d'eux est dirigé sur la poitrine de la reine. Isidore a tout vu. Il s'élance, saisit le canon du fusil et l'écarte. « Feu, feu !» crient plusieurs voix. Un des hommes obéit. Heureusement, son fusil rate. Isidore lève le bras et va poignarder cet homme avec son couteau de chasse. La reine lui arrête le bras. « Ah, madame !» s'écrie Isidore furieux. « Au nom du ciel, laissez-moi donc charger cette canaille !»« Non, monsieur, dit la reine, le sabre au fourreau, entendez-vous » Isidore obéit à moitié. Il laisse retomber son couteau de chasse, mais ne le remet pas au fourreau. « Ah, si je rencontre Drouet !» murmure-t-il. « Ah, quant à celui-là, dit la reine à demi-voix, et lui serrant le bras avec une force étrange, quant à celui-là, je vous le livre. »« Mais enfin, messieurs, répéta le roi, que voulez-vous ? » ?»« Nous voulons voir les passeports, répondirent 2 ou 3 voix. » « Les passeports ? Soit, dit le roi, allez chercher les autorités de la ville et nous leur montrerons. » « Ah, par ma foi, voilà bien des façons !» s'écria en mettant en joue le roi, l'homme dont le fusil avait déjà raté. Mais les 2 gardes du corps se jetèrent sur lui et le terrassèrent. Dans la lutte, le fusil partit, mais la balle n'atteignit personne. « Holà ! » cria une voix, « qui a tiré ?» L'homme, foulé aux pieds par les gardes du corps, poussa un rugissement en criant « À moi !» Les 5 ou 6 autres hommes armés accoururent à son secours. Les gardes du corps dégainèrent leurs couteaux de chasse et s'apprêtèrent à combattre. Le roi et la reine faisaient d'inutiles efforts pour arrêter les uns et les autres. La lutte allait commencer, terrible, acharnée, mortelle. En ce moment, 2 hommes se précipitèrent au milieu de la mêlée, l'un ceint d'une écharpe tricolore, l'autre vêtu d'un uniforme. L'homme à l'écharpe tricolore, c'était le procureur de la commune, Sauce. L'homme vêtu de l'uniforme, c'était le commandant de la garde nationale, Annonay. Derrière eux, on voyait briller, à la lueur de 2 ou 3 torches, une 20aine de fusils. Le roi comprit que, dans ces 2 hommes, était, sinon un secours, du moins une garantie. « Messieurs, dit-il, je suis prêt à me confier à vous, ainsi que les personnes qui m'accompagnent, mais défendez-nous des brutalités de ces gens !» Et il montrait les hommes armés de fusils. « Bas les armes, messieurs !» s'écria Annonay. Les hommes obéirent en grondant. « Vous nous excuserez, monsieur, dit le procureur de la commune, s'adressant au roi, mais le bruit s'est répandu que Sa Majesté Louis XVI était en fuite, et il est de notre devoir de nous assurer si c'est vrai. »« Vous assurez si c'est vrai ? » s'écria Isidore, « et si c'est vrai que cette voiture renferme le roi, vous devez être au pied du roi. Et si au contraire elle ne renferme qu'un simple particulier, de quel droit l'arrêtez-vous ? » « Monsieur, dit Sauce, continuant à s'adresser au roi, c'est à vous que je parle. Voulez-vous me faire l'honneur de me répondre ?»« Sire, dit tout bas Isidore, gagnez du temps. Monsieur de Damas et ses dragons nous suivent sans doute et ne tarderont pas à arriver. »« Vous avez raison, dit le roi. puis répondant à Monsieur Sauce, « Et si nos passeports sont en règle, monsieur, dit-il, nous laisserez-nous poursuivre notre route ?»«
Sans doute, dit Sauce. »
« Eh bien, alors, madame la baronne, dit le roi, s'adressant à madame de Tourzel, ayez la bonté de chercher votre passeport et de le donner à ces messieurs. »
Madame de Tourzel comprit ce que le roi voulait dire par les mots « ayez la bonté de chercher votre passeport ». Elle se mit en effet à le chercher, mais dans les poches où il n'était pas.
« Eh, dit une voix impatiente et pleine de menaces, vous voyez bien qu'ils n'en ont point de passeport. »
« Si fait, messieurs, dit la reine, nous en avons un, mais ignorant qu'on allait nous le demander, madame la baronne de Koch ne sait plus ce qu'elle en a fait. »
Une espèce de huée s'éleva dans la foule, indiquant qu'elle n'était pas dupe de ce subterfuge.
« Il y a quelque chose de plus simple que tout cela, dit Sauce. Postillon, conduisez la voiture devant mon magasin. Ces messieurs et ces dames entreront chez moi, et là, tout s'éclaircira. Postillon, en avant, messieurs les gardes nationaux, escortez la voiture. »
Cette invitation ressemblait trop à un ordre pour qu'on essayât de s'y soustraire. D'ailleurs, l'eût-on tenté, on n'eût probablement pas réussi. Le tocsin continuait de sonner, le tambour continuait de battre, et la foule qui entourait la voiture augmentait à chaque instant. La voiture se mit en marche.
« Oh, monsieur de Damas !» murmura le roi, « pourvu qu'il arrive avant que nous soyons à cette maison maudite !»
La reine ne disait rien, elle pensait à Charny, étouffait ses soupirs et retenait ses larmes. On arriva à la porte du magasin de Sauce sans avoir entendu parler de monsieur de Damas. Qu'était-il encore advenu de ce côté-là et qui empêchait ce gentilhomme, sur le dévouement duquel on savait pouvoir compter, d'accomplir les ordres qu'il avait reçus et la promesse qu'il avait faite?
Nous allons le dire en deux mots pour que sorte à tout jamais de l'obscurité chaque point de cette lugubre histoire. Nous avons laissé monsieur de Damas faisant sonner le bout de sel par les trompettes que, pour la plus grande sûreté, il avait retenu avec lui. Au moment où le premier son de la trompette éclata, il prenait son argent dans le tiroir de son secrétaire, et, en y prenant son argent, il en tirait quelques papiers qu'il ne voulait ni laisser derrière lui, ni emporter avec lui. Il s'occupait de ce soin lorsque la porte de la chambre s'ouvrit et que plusieurs membres de la municipalité parurent sur le seuil. L'un d'eux s'approcha du comte. « Que me voulez-vous ? » demanda celui-ci, tout étonné par cette visite inattendue et se redressant pour cacher une paire de pistolets déposés sur la cheminée.
« Monsieur le comte, répondit un des visiteurs avec politesse, mais avec fermeté, nous désirons savoir pourquoi vous partez à cette heure. »
Monsieur de Damas regarda avec surprise celui qui se permettait de faire une pareille question à un officier supérieur de l'armée du roi. « Mais, répondit-il, c'est bien simple, monsieur, je pars à une pareille heure parce que j'en ai reçu l'ordre. »
« Dans quel but partez-vous, monsieur le colonel ?» insista le questionneur.
Monsieur de Damas fixa sur lui un regard de plus en plus étonné.
« Dans quel but je pars ? D'abord, je l'ignore moi-même, et puis ensuite, je le saurai, que je ne vous le dirai pas. »
Les députés de la municipalité se regardèrent entre eux et s'encourageant les uns les autres du geste, de sorte que celui qui avait commencé à s'adresser à monsieur de Damas continua.
« Monsieur, dit-il, le désir de la municipalité de Clermont est que vous partiez non pas ce soir, mais seulement demain matin. »
Monsieur de Damas sourit de ce mauvais sourire du soldat à qui l'on demande, soit par ignorance, soit dans l'espoir de l'intimider, une chose incompatible avec les lois de la discipline.
« Ah, dit-il, c'est le désir de la municipalité de Clermont que je reste jusqu'à demain matin. »
« Oui. »
« Eh bien, monsieur, dites à la municipalité de Clermont que j'ai le suprême regret de me refuser à son désir, attendu qu'aucune loi, que je connaisse du moins, n'autorise la municipalité de Clermont à entraver la marche des troupes. Quant à moi, je n'ai d'ordre à recevoir que de mon chef militaire, et voici mon ordre de départ. »
Et ce disant, monsieur de Damas étendit son ordre vers les députés municipaux. Celui qui était le plus proche du comte le reçut de ses mains et le communiqua à ses compagnons, tandis que monsieur de Damas prenait derrière lui les pistolets déposés d'avance sur la cheminée et cachés par son corps. Après avoir examiné avec ses collègues le papier qui venait de lui être communiqué, « Monsieur, dit le membre de la municipalité, qui avait déjà adressé la parole à monsieur de Damas, plus cet ordre est précis, plus nous devons nous y opposer, car sans doute il vous commande une chose qui, dans l'intérêt de la France, ne doit pas s'accomplir. Je vous annonce donc, au nom de la nation, que je vous arrête. » « Et moi, messieurs, dit le comte en démasquant ses deux pistolets et en les dirigeant sur les deux officiers municipaux les plus rapprochés de lui, je vous annonce que je pars. » Les deux officiers municipaux ne s'attendaient pas à cette menace armée. Un premier sentiment de crainte ou peut-être d'étonnement les fit s'écarter de devant monsieur de Damas. Celui-ci franchit le seuil du salon, s'élança dans l'antichambre dont il ferma la porte à double tour, se précipita dans les escaliers, trouva son cheval à la porte, sauta dessus, se rendit ventre à terre sur la place où se rassemblait le régiment, et s'adressant à monsieur de Floirac, un de ses officiers qu'il trouva à cheval, « Il faut nous tirer d'ici comme nous pourrons, dit-il, mais l'important est que le roi soit sauvé. » Pour monsieur de Damas, qui ignorait le départ de Drouet de Sainte-Menehould, qui ne connaissait que l'insurrection de Clermont, le roi était sauvé, puisqu'il avait dépassé Clermont et qu'il fallait atteindre Varennes, où stationnaient les relais de monsieur de Choiseul et les hussards de Lauzun, commandés par messieurs Jules de Bouillé et de Régecourt. N'importe, pour la plus grande précaution, s'adressant au quartier-maître du régiment qui s'était rendu sur la place un des premiers avec les fourriers et les dragons de logement, « Monsieur Rémy, lui dit-il tout bas, partez, prenez la route de Varennes, allez, ventre à terre, rejoignez les voitures qui viennent de passer, vous m'en répondez sur votre tête. » Le quartier-maître piqua des deux et partit avec les fourriers et quatre dragons. Mais en sortant de Clermont, arrivé à un endroit où la route bifurquait, il prit le mauvais chemin et s'égara. Tout tourna fatalement dans cette fatale nuit. Sur la place, la troupe se formait lentement. Les municipaux enfermés chez monsieur de Damas étaient facilement sortis de leur prison en forçant la porte. Ils excitaient le peuple et la garde nationale qui se rassemblaient avec une bien autre ardeur dans une bien autre attitude que les dragons. Quelque mouvement que fit monsieur de Damas, il s'apercevait qu'il était couché en joue par trois ou quatre fusils dont le point de mire ne le quittait pas, ce qui ne laissait pas d'être inquiétant. Il voyait ses soldats soucieux, ils passaient dans leurs rangs pour essayer de raviver leur dévouement au roi, mais les soldats secouaient la tête. Quoiqu'ils ne fussent pas encore tous rassemblés, il jugea qu'il était grandement temps de partir. Il donna l'ordre de se mettre en marche, mais personne ne bougea. Pendant ce temps, les officiers municipaux criaient « Dragons, vos officiers sont des traîtres, ils vous mènent à la boucherie, les dragons sont patriotes, vive les dragons !» Quant aux gardes nationaux et au peuple, ils criaient « Vive la nation !» D'abord, monsieur de Damas, qui avait donné à demi-voix l'ordre de partir, crut que cet ordre n'avait pas été entendu. Il se retourna et vit les dragons du second rang qui mettaient pied à terre et qui fraternisaient avec le peuple. Dès lors, il comprit qu'il n'y avait plus rien à attendre de ces hommes. Il réunit autour de lui les officiers par un coup d'œil. « Messieurs, dit-il, les soldats trahissent le roi. J'en appelle des soldats aux gentilshommes. Qui m'aime me suivre? À Varennes !» Et, enfonçant les éperons dans les flancs de son cheval, il s'élança le premier à travers la foule, suivi de monsieur de Floirac et de trois officiers. Ces trois officiers, ou plutôt sous-officiers, étaient l'adjudant Fouque et les deux maréchaux des logis, Saint-Charles et la Poterie. Cinq ou six dragons fidèles se détachèrent des rangs et suivirent aussi monsieur de Damas. Quelques balles que l'on envoya à ces héroïques fugitifs furent des balles perdues. Voilà comment monsieur de Damas et ses dragons ne s'étaient point trouvés là pour défendre le roi quand le roi avait été arrêté sous la voûte de la tour du péage à Varennes, forcé de descendre de sa voiture et conduit chez le procureur de la commune, monsieur Sauce.